18h10 à Paris et Décryptage, c'est avec vous aujourd'hui Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Décryptage. Marion Cazeneuve.
Dur de faire des bébés. Dans le monde, le nombre d'enfants par femme va diminuer tout au long du siècle jusqu'à atteindre 1,6 d'ici 2100 et même 1,4 en France. Ce sont des chiffres publiés dans la revue scientifique The Lancet la semaine dernière et donnés par une collaboration internationale de chercheurs, le Global Burden of Disease. Autre chiffre étonnant, plus de 97% des pays auront des taux de fécondité en dessous de ce qu'il faut pour maintenir leur population en l'état. Et ce n'est pas la première études à faire ce constat, les politiques aussi s'emparent de ce sujet, notamment en France. Alors à quoi est due cette baisse de la fécondité et aussi de la fertilité? Faut-il s'en inquiéter? A-t-elle aussi ses avantages? On en décrypte ce soir tous les enjeux. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RFI. Deux invités par téléphone pour répondre à mes questions. Professeur Samira Mama, bonsoir.
Bonsoir.
Gynécologue, chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Et bonsoir Gérard-François Dumont.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir, auteur aussi d'une géographie des populations chez Armand Collin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. D'abord, peut-être un point de vocabulaire rapide, professeur Samira Mama, parce qu'on peut confondre les deux termes. Quelle est la différence entre fécondité et fertilité ?
Au fait, ces deux termes, pour faire simple, quand on dit fertilité en anglais, équivalent fécondité en français. D'accord ? Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on parlait de baisse des fécondités, on parle bien du baisse de la fertilité en anglais. Donc, c'est un terme anglo-saxon qu'il ne faut pas... Mais les deux, ils vont signifier pour dire la même chose. La fertilité en français, ça veut dire le couple est capable de concevoir à la maison sans aucune aide médicale. Et l'infertilité, c'est l'inverse. Au-delà de 12 cycles, c'est-à-dire au-delà d'un an, un couple jeune en âge de procréer, sans moyens contraceptifs, avec 2-3 rapports sexuels par semaine, si la femme n'est pas enceinte, et bien là, dans ces cas-là, on va la qualifier comme femme infertile ou l'homme infertile pour lequel ce couple-là va venir consulter.
D'accord, donc la fertilité, c'est donc cette capacité à faire des enfants. Gérard-François Dumont, vous êtes démographe, je le rappelle. Quelle est la principale raison donc de la baisse de la fécondité dans le monde ?
La principale raison, c'est qu'en fait, elle était imprévue par ceux qui, en général, en parlaient. Vous vous rappelez peut-être vos livres scolaires dans lesquels on présentait ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire cette période historique pendant laquelle la mortalité baisse considérablement et pendant laquelle les personnes adaptent à la baisse leur fécondité dans la mesure où elles se rendent compte que le taux de survie de leurs enfants s'améliore. Or, dans tous nos livres scolaires, on nous présentait comme si, après la transition démographique, les pays allaient se stabiliser avec un taux de natalité équivalent au taux de mortalité. Or, j'ai toujours montré que c'était une profonde erreur et qu'après la transition démographique, beaucoup d'évolutions divergentes peuvent se faire, soit effectivement, comme on constate dans la majorité des pays, c'est-à-dire un abaissement de la fécondité, soit au contraire, dans d'autres pays, une fécondité qui est suffisante pour assurer le seuil de remplacement des générations. Pour être, si vous voulez, un peu moins technique, si l'on regarde la situation déjà actuelle, sans parler de l'avenir, nous avons dans le monde trois types de pays. Des pays qui continuent leur croissance démographique parce que la période de transition démographique n'est pas finie chez eux. C'est essentiellement l'Afrique et puis quelques pays d'Asie comme l'Afghanistan. D'autres pays dont la croissance démographique se prolonge, mais uniquement par effet de vitesse acquise, alors que leur fécondité est encore relativement abaissée. Je pense par exemple au pays le plus peuplé du monde et à l'Inde. Et puis vous avez des pays où la fécondité est maintenant tellement abaissée que même s'ils ont des apports migratoires, la population diminue. Donc c'est le cas du Japon, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Corée du Sud. Et en Europe, c'est le cas de plusieurs pays comme la Roumanie, la Bulgarie. Donc vous voyez que les évolutions démographiques sont extrêmement contrastées selon les pays, même si globalement dans le monde, nous sommes dans ce que j'ai appelé une décélération démographique qui a commencé à la fin des années 60. Parce qu'en démographie, on est dans des logiques de longue durée Et donc, il faut du temps pour qu'on voit les phénomènes prendre une grosse importance d'un point de vue quantitatif.
Mais pourquoi cette baisse ? Qu'est-ce qui explique cette baisse dans ces pays-là ?
Alors, ce qui explique cette baisse, c'est justement que nous avons des populations qui, aujourd'hui, sont moins accueillantes à la vie. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'avoir des enfants n'est pas forcément pour eux un idéal. Et on le voit très bien dans un certain nombre de pays où le pourcentage de femmes sans enfants à 50 ans ne fait qu'augmenter. Donc, si vous voulez, la raison principale, c'est quand même un peu une raison culturelle, c'est-à-dire une faible croyance dans la nécessité, si je puis dire, d'avoir un enfant ou un enfant supplémentaire. C'est un peu le contraire de ce qui s'est passé pendant le renouveau démographique d'après-guerre, où au contraire, on avait des populations qui étaient très accueillantes aux enfants. Et vous voyez qu'en plus, on a toute une mentalité de refus de l'accueil de l'enfant qui se développe à travers un certain nombre de discours qui font peur aux populations. Je pense par exemple au discours d'éco-anxiété, selon lesquels, soi-disant, nous serions trop nombreux sur Terre, alors qu'en réalité, il est impossible de prouver qu'il y a une surpopulation pour une raison bien simple, c'est que nous sommes en gros 8 milliards dans le monde. Alors, c'est un chiffre qui peut faire peur, hein, je le comprends, ce chiffre de 8 milliards. Mais dans la réalité, c'est une densité très faible qu'il y a dans le monde. En effet, si vous prenez les 8 milliards d'habitants du monde et vous les mettez dans les seuls États-Unis, donc plus d'habitants en Europe, plus d'habitants en Amérique latine, plus d'habitants en Asie, plus d'habitants en Afrique, eh bien vous allez vous dire, oh là là, 8 milliards d'habitants aux États-Unis, mais c'est absolument effrayant, ils vont être comme dans une boîte de sardines. Il n'y a pas du tout. La densité des États-Unis serait même plus faible que la densité actuelle de la région Île-de-France, dont on sait qu'elle a de vastes territoires ruraux. Mmh. Donc, vous voyez, tout est relatif en réalité. La réalité démographique, elle est locale.
Alors, je voudrais à présent vous faire écouter cet extrait d'un discours du président français Emmanuel Macron.
La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Voilà, le fameux réarmement démographique. Emmanuel Macron dit que l'infertilité a progressé. Samira Hamama, vous précisez dans un rapport que ça touche 3,3 millions de Français. Est-ce qu'aujourd'hui, ça concerne plutôt les femmes, plutôt les hommes ?
Ça concerne les deux. Ça concerne les deux. Il y a autant d'hommes infertiles que des femmes infertiles. Quand on dit 3,3 millions avec l'aide des experts de l'INED et de l'INSEE, ces chiffres-là, il faudra les multiplier par deux si on veut intégrer le ou la partenaire, parce qu'on fait un couple, on fait un bébé à deux. Donc c'est la raison pour laquelle on est face à une population dont le nombre des personnes infertiles ne cesse d'augmenter. Je vous rappelle, l'infertilité augmente de 0,3 et 0,4% par an, respectivement, chez l'homme et chez la femme. C'est grâce à une enquête qui a été réalisée et publiée dans 195 pays et publiée en 2017. Autrement dit, la santé reproductive au sens large chez l'homme et chez la femme est en perpétuelle altération. Certes, culturellement, il y a 40 ou 50 ans, on pensait quand ça ne fonctionnait pas, c'est la faute souvent à madame. Je crois que ce discours-là est complètement archivé, n'a plus de raison d'être. Parmi les facteurs, sans oublier le 10-15%, ce qu'on appelle, qu'on qualifie d'infertilité inexpliquée. Autrement dit, on a tout exploré et les données s'avéraient, entre guillemets, normales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui contribue à cette augmentation de l'infertilité, c'est trois sortes de causes qu'on peut, pour simplifier pour vos auditeurs. La première cause, c'est les causes sociétales. Les causes sociétales, c'est-à-dire le recul d'âge. Il suffit de regarder la moyenne d'âge aujourd'hui de l'accouchement dans les grandes villes, il est aux alentours de 31 ans et 2 mois. Mmh. Il y a 30 ans, on était à 24 ans. Autrement dit, on a abludi pour l'émancipation des femmes. Les femmes font de plus en plus de parcours universitaires longs. Le temps qu'ils finissent son parcours, qu'elles trouvent les jobs auxquels s'inspirent légitimement, qu'elles trouvent son prince ou sa princesse, eh bien là, elle rentre dans une zone, entre guillemets, de turbulence sur le plan fertilité. La fertilité maximum dans l'espèce humaine à l'âge de 25 ans. Donc ce que les Français et au-delà doivent savoir, la fertilité chute avec l'âge, premièrement. Et deuxièmement, l'assistance médicale à la procréation, comme on dit, la PMA ou la fécondation in vitro, ce n'est pas une baguette magique qui réglera toutes les causes d'infertilité. Donc ça, c'est la première cause d'infertilité dont les solutions, il est dans nos mains. Ma question est-ce que, par exemple, pour parler que de la France, est-ce que la France aujourd'hui est capable d'offrir à une femme active de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
Et on y reviendra. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs aussi qui peuvent rendre infertile? Je pense à la pollution, aux ondes.
Absolument. Ça, c'est la deuxième cause du chapitre que j'appelle les causes environnementales. Autrement dit, dans votre vie quotidienne, vous êtes exposé à une centaine de molécules chimiques, qu'elles soient d'origine naturelle ou d'origine artificielle, industrielle. Ce que les appelle le perturbateur endocrinien. Vous êtes exposé sans savoir. Vous me dites, je vais habiter dans tel endroit, je vous répondrai, regardez dans un périmètre de 5 à 10 kilomètres, s'il n'y a pas de déchetterie, s'il n'y a pas d'incinérateur, s'il n'y a pas une agriculture intensive, s'il n'y a pas d'usine pétrochimie ou que sais-je encore. Parce que les perturbateurs, ce sont des molécules qui parasitent notre système de régulation hormonale.
Et la
troisième cause, c'est les causes médicales. Les causes médicales, ce que ce soit chez l'homme et chez la femme ou chez les deux à la fois. Donc voilà les trois causes d'infertilité. Par contre, je voudrais dire, l'infertilité, c'est l'une des causes pouvant expliquer la baisse de natalité. Mais en aucun cas, elle n'est pas la seule cause. Là, par exemple, si vous prenez la baisse de la natalité en France, on a terminé 2022 à 678 000 accouchements, mais ça baisse dans toutes les catégories d'âge, sauf dans les catégories d'âge de femmes de 40 ans jusqu'à 50 ans, où on a noté 3% d'augmentation. Donc, autrement dit, je pense que c'est la raison pour laquelle il va falloir envisager de mettre en place une vraie stratégie nationale de prévention pour permettre à celles et ceux qui font un parcours long, qui ne souhaitent pas faire leur enfant assez tôt, eh bien, d'avoir la possibilité, au cas où, de faire appel à leurs gamètes. Et je me réjouis que la loi de 2 août 2021 autorise, pour des raisons non médicales, autrement dit autoconservation sociétale, pour une femme entre 29 et 37 ans, et pour un homme entre 29 et 45 ans. Et
alors, Gérard François Dumont, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette tendance mondiale de baby crash, comme on dit, de baisse de la fécondité dans le monde ?
Alors, comme je vous l'ai dit, la réalité démographique, elle est locale. Et donc, les situations sont quand même extrêmement contrastées selon les pays. Ce qui est certain et bien connu en économie, c'est qu'à partir du moment où vous avez des générations moins nombreuses, bien vous allez avoir moins d'actifs pour créer des richesses. Et donc, par exemple, un pays comme la France, qui a un système de protection sociale extrêmement vaste, va inévitablement éprouver des difficultés à financer son système de protection sociale si sa population active diminue. Le second élément, c'est que l'enfant, en réalité, dès sa naissance, est un élément actif de la société. Parce que le fait qu'une famille ait un enfant supplémentaire ou un premier enfant, elle va inévitablement se mobiliser pour pouvoir accueillir cet enfant. Et donc, elle va, par exemple, chercher à avoir des revenus professionnels meilleurs pour satisfaire les besoins de cet enfant. Donc, en réalité, la baisse de la fécondité, elle a des effets immédiats sur le dynamisme d'une société. C'est vrai également à l'échelle des communes qui, lorsqu'elles ne sont pas stimulées parce que leur population scolaire, éprouvent énormément des difficultés. Ce qui est important aussi dans ce que disait le professeur sur l'infertilité, c'est qu'en ce qui concerne les premières causes, c'est-à-dire les causes sociétales, il n'y a pas de différence géographique. On le voit bien dans les départements français, le recul de l'âge, il est absolument général. Donc cette réalité locale, elle doit aussi être considérée au titre de ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la conciliation vie professionnelle et vie familiale, parce que c'est vrai que la raison fondamentale de la baisse de la fécondité en France ces dernières années, c'est que la France avait une politique familiale qui était appréciée par les Français et qui a été profondément remise en cause, je dirais, à tous les étages. Et donc, les Français ont un peu perdu confiance dans la politique familiale. C'est la raison pour laquelle, moi, dès qu'il y a eu toutes ces mesures de rabotage de la politique familiale, j'ai annoncé que la fécondité allait baisser. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a une certaine corrélation depuis des décennies entre le niveau de politique familiale et l'aptitude des couples à pouvoir avoir un enfant supplémentaire. Et ce décalage, il est bien mis en évidence à travers le désir d'enfant, puisqu'en France, lorsqu'on fait des enquêtes pour demander aux personnes combien elles souhaitent d'enfant, en moyenne, elles répondent, on en souhaite 2,3. Alors, bon, excusez-moi pour la virgule, mais chacun me comprend. Alors qu'en réalité, la fécondité, elle est tombée aujourd'hui au-dessous de 1,7 enfants par femme. Donc on voit bien le décalage entre le souhait des populations d'accueillir des enfants et le fait qu'ils n'arrivent pas à concrétiser ce souhait, notamment parce qu'il y a eu dégradation de la politique du logement, parce qu'il y a eu dégradation des possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale avec beaucoup moins de construction de crèches que ce qui avait été promis, et puis bien sûr aussi dégradation, je dirais, en termes tout simplement de pouvoir d'achat relatif avec des réformes qui ont désavantagé les couples avec enfants.
Alors, l'une des solutions que propose notamment le gouvernement français, c'est de proposer aux femmes dès 25 ans un test de fertilité, par exemple. Est-ce que pour vous, professeur Amama, c'est une bonne solution ? Ce serait efficace ?
Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas d'où il sort cette proposition, d'un chapeau comme ça, quelconque, d'une... je ne sais pas. Nous, on a proposé dans mon rapport qu'on a remis à la présidence et au gouvernement, plutôt que chaque hommes et femmes dès l'âge de 29 ans recevraient un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en l'invitant, s'ils le souhaitent, rien d'obligatoire, de mettre en banque, de bénéficier pardon, d'une consultation dite longue de 3/4 d'heure, qu'on fait un check sur sa fertilité. Chez la femme, on va vérifier sa réserve ovarienne. Et pour l'homme, on va lui demander, après un examen clinique, de réaliser ce qu'on appelle un spermogramme. On ne va pas vous dire, au travers cet examen, si vous êtes fertile ou infertile. On va vous dire, votre réserve ovarienne, madame, il est normal, je vous vois dans un an. Ou votre réserve, il est anormal, je vous conseille de mettre en banque quelques ovocytes, si vous le souhaitez. Au fait, c'est ce qu'on appelle la politique préventive. Il faudra informer et éduquer à l'échelle collective, à l'échelle individuelle, sans culpabiliser, sans moraliser, et sans paraître même prénataliste. Moi, je pense, j'ajouterais à ce qu'il dit mon confrère à l'instant, que ces discours anxiogènes de nos amis verts, je pense qu'on peut faire passer le message autrement quand on dit qu'il y a un changement climatique. Je crois que personne aujourd'hui ne peut dire le contraire. Il y a la disparition de l'écosystème, il y a l'altération de la biodiversité. De quoi parlons-nous ? On parle des êtres vivants. Et l'être humain dans tout ça, ce n'est pas un être vivant. Je ne vois pas comment le crapaud disparaît, mais pas l'être humain. Donc, c'est là où ça devient intéressant, cet indicateur conjoncturel de fécondité, où, dont on a parlé tout à l'heure, étant le seuil de renouvellement générationnel à 2,1 enfants par femme. Mais si on regarde cet index partout dans le monde, y compris en Afrique subsaharienne, je prends l'exemple, la femme au Sierra Leone, il y a 2 siècles, elle faisait en moyenne 7 à 8 enfants. Aujourd'hui, il fait à peine 3,8. Si on regarde l'indice pour la France, en 2010, on était à 1,84. Aujourd'hui, à 1,68. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Italie, pas très loin de chez nous, il est 1,2. Au point que l'Italie, parmi les mesures pour relancer sa politique nataliste, elle propose, depuis janvier 2022, 250 euros dès le 7e mois des grossesses, jusqu'à l'âge 21 ans de la personne. La Corée du Sud, son indice la plus catastrophique de la Terre, 0,75.
Et on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux, professeur Samir Amama et Gérard François Dumont, d'avoir accepté notre invitation dans Décryptage.